pouvoir sur les réseaux sociaux et sur les médias, pouvoir répondre finalement à toutes les fois où on se fait attaquer. Et on a Rafaisan avec nous en direct depuis Jérusalem, qui sera là pour nous expliquer, pour nous expliquer ce qui se passe vraiment, et on aura la possibilité à la fin de lui poser nos questions qui concernent ce conflit. J'aimerais tout d'abord dédier donc cette conférence à Nathan Liard, qui était un khayal. On a eu la demande de sa maman pour dédier cette conférence pour lui. Donc je vais vous lire une mini biographie que sa mère nous a écrite. Donc Nathan Liard venait de fêter il y a 2 semaines ses 20 ans. Il est monté en Israël avec ses parents, Laetitia et Pascal, et son frère Samuel et sa petite sœur Naël, il y a tout juste 7 ans. Enfance, on disait de lui que sa scolarité serait compliquée. En Israël, au contraire, que ce serait un géant. Nathan était brillant, il était spécial, unique. Nathan, comme son nom l'indique, était quelqu'un qui donnait, qui faisait tout pour les autres jusqu'à donner sa vie pour sauver ses frères d'armes qui lui a coûté la sienne. Il aimait les autres, il aimait la vie, il était passionné de tout et se lançait à fond. C'est un autodidacte dans tous les domaines et savait les apprivoiser avec brio. Il composait au piano, à la guitare, peignait, mais c'était avant tout un amoureux de la Torah. Il aimait étudier la Gemara et Masechet Shabbat. Tous les rabbins avec lesquels il a étudié, à commencer par le rabbin Kapetaz de la communauté de Vincennes, sont unanimes. Nathan est un Talmide Chacham. C'était une figure du Bnei Akiva. Il a formé, accompagné dès son arrivée dans cette terre qu'il aimait tant, je ne sais combien de jeunes, et certains jeunes de la communauté de Boulogne pendant les séjours Bagle Blanc à leur entrée dans l'armée. Voilà, il était aussi madrir au Bnei Akiva à Natania. Voilà, et on va dédier aussi cette conférence donc à tous les Chayalim qui sont tombés, tous les Chayalim qui se battent pour Israël.
Très bien, très très belle introduction et très émouvante. Rappelle-moi le nom.
Vous n'avez pas allumé.
Ah oui, j'ai pas allumé le micro. Excuse-moi. Voilà. Yofi. Non, je disais très belle introduction et présentation. Merci beaucoup. Rappelle-moi juste le nom du soldat.
Nathan Liard.
Nathan.
J'ai le nom aussi.
Liar. D'accord. Évidemment. Leilou Nishmato.
C'est Nathan Chai Ben Sarah Liard.
Nathan Chai Ben Sarah Liard. Alors, les amis, on va essayer de discuter ensemble en 4 parties. Dans la première partie, on va essayer de manière extrêmement petite, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau des faits. Ensuite, on essaiera de comprendre quels sont les enjeux de ce qui se passe. En troisième partie, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui nous arrive. Et en quatrième partie, si vous avez des questions, évidemment, je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. Tout d'abord, il faut remettre le 7 octobre, le jour de Simchat Torah, dans un contexte beaucoup plus large. Et ce contexte beaucoup plus large, il est que dès les années 1920 et 21, où le peuple juif a eu de manière politique, de manière donc au niveau des organisations internationales, lorsqu'on a commencé à avoir des volontés de reconstruire un pays en Israël, eh bien, l'opposition, d'abord arabe, musulmane, eh bien, du monde entier, a commencé à se faire ressentir de plus en plus. Il y a quelque chose qui est fondamental de bien comprendre. Vous savez, lorsqu'on veut parler à des Français, eh bien, il faut parler en français. Si tu parles en anglais, eh ben tout le monde ne comprendra pas. Lorsque tu parles à un anglais, il faut lui parler en anglais. Si tu lui parles en français, il ne comprendra pas. Et donc, lorsque tu veux comprendre la culture occidentale, eh bien, il faut parler à la mode occidentale. Mais ça, on comprend très bien, puisque c'est ce que nous parlons en France, en Israël, aux États-Unis. Mais lorsque nous voulons parler avec la culture de l'islam, eh bien, il faut parler et comprendre le langage de cette culture-là. Je ne parle pas de parler la langue arabe. Je parlais de comprendre quel est le langage de cette culture. Et pour le monde de l'islam, eh bien, vous le savez, c'est une religion prosélyte, une religion qui veut donc que tout le monde devienne musulman. Mais pour l'islam, un juif peut ne pas se convertir à l'islam, il peut rester juif, mais à ce moment-là, il doit vivre en tant que dhimmi. Dhimmi, c'est-à-dire soumis à l'islam. Il peut donc être un individu juif qui devra payer un impôt à l'islam, mais il ne peut certainement pas avoir une volonté de nation indépendante. Et c'est pour ça que pendant les centaines d'années dans lesquelles les communautés juives ont vécu dans des pays musulmans, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans l'Empire ottoman, eh bien, les juifs étaient tolérés, ils payaient un impôt et bah, ils étaient tolérés. Lorsque le peuple d'Israël a comme volonté de reconstruire un pays indépendant, alors là, ça devient quelque chose qui est très problématique aux yeux de l'islam. Et donc les combats ont commencé depuis lors, 1921, et le pogrom qu'il y a eu à Tel Hai, eh bien, va être le premier pogrom qui s'inscrit sur un fond de combat politique, de combat donc de nation. Des pogroms, malheureusement, il va en avoir beaucoup avant la création de l'État d'Israël. Il va y avoir le grand pogrom de 1929 à Hebron. Il va y avoir la révolte de la rue arabe entre 1936 et 1939. Tout ça, ça se passe en Israël. Et finalement, en 1948, il y aura la création de l'État d'Israël. Cette création de l'État d'Israël n'est évidemment pas acceptée par le monde arabe et ce sont sept pays arabes qui déclarent la guerre à Israël après la déclaration d'indépendance. La victoire d'Israël à la fin de la guerre est une surprise pour tout le monde arabe, pas pour nous. Nous avions cette certitude que nous allions gagner et finalement, eh bien, l'État d'Israël est créé. Les choses ne vont pas s'apaiser. Il y aura la guerre entre Israël et l'Égypte, la guerre du Sinaï. Il y aura la guerre des six jours en 1967 qui va chambouler toutes les consciences du monde entier puisque en 1948, le peuple juif a créé un pays. Certes, mais les territoires qui étaient les territoires du Tanakh, de la Bible, les territoires où le peuple juif a eu toute son histoire, donc la Judée, la Samarie, Jérusalem évidemment, eh ben n'étaient pas sous contrôle juif, étaient encore sous domination musulmane, en l'occurrence la Jordanie. En 1967, il y a une révolution non seulement politique, mais une révolution religieuse, théologique. Le peuple juif est revenu sur les terres où son histoire de la Torah, du Tanakh, s'est déroulée. Évidemment, ça ne va pas être pris d'un bon sens dans le monde musulman. La guerre de Kippour en 1973 sera une autre tentative de montrer que on n'acceptera pas l'État d'Israël. À cette époque, le Premier ministre Golda Meir disait au président américain que nous avons une arme secrète pour gagner la guerre. Cette arme secrète, c'est que nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Que l'État d'Israël, c'est le seul État où on peut avoir un pays indépendant et donc forcément on doit gagner. La guerre du Liban en 1982 va ouvrir une nouvelle réalité où ce sont des pays à l'extérieur qui ne veulent pas officiellement d'une guerre totale contre Israël, mais qui veulent montrer par des actes violents, des actes de terrorisme, eh bien que on va pas laisser l'État d'Israël vivre tranquillement. La guerre du Liban, 1982, la première intifada, 1987, la deuxième intifada, 2000-2005, la guerre du Liban numéro 2, en 2006, et les différentes guerres et opérations dans la bande de Gaza. Car c'est de cela dont on est en train de parler. En 2005, l'État d'Israël décide de déraciner 8000 juifs de l'intérieur de la bande de Gaza et donc de détruire ce qu'on appelait le Gush Katif de manière unilatérale, c'est-à-dire en ne demandant à personne, et décide qu'il n'y aura plus un seul juif dans la bande de Gaza. Cette bande de Gaza devra donc maintenant être administrée par les Arabes eux-mêmes et sous couvert d'élections, eh bien en 2006 et 2007, le Hamas, cette organisation terroriste, reconnue comme telle par les États-Unis, par l'Union européenne, vont prendre le pouvoir à Gaza. Et ne vont avoir de cesse que, eh bien, de s'armer pour attaquer dans tous les scénarios possibles Israël. Des fois par des tirs de roquettes, des fois par des incursions de terrorisme. Le Hamas a des cellules qui vont se mettre en place, pas seulement dans la bande de Gaza, mais également en Judée-Samarie. Le Hamas, depuis 2005, comme je l'ai dit, n'a aucune opposition à l'intérieur de la bande de Gaza et aucune possibilité pour Israël de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza, puisqu'on n'est plus là-bas. À chaque fois que le Hamas aura organisé, le Hamas ou tous ses copains, c'est-à-dire le Djihad Islami, les groupes Al-Qassam, enfin plein de groupes terroristes qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza, à chaque fois qu'on va nous attaquer, on va répondre. On va répondre en ciblant des objectifs militaires, en ciblant les zones de tir, sans véritablement régler le problème, puisque le Hamas aura réussi à se créer durant toutes ces années une ville souterraine, des stocks d'armement souterrains et des dirigeants du mouvement terroriste qui sont bien au chaud dans les différents pays, comme au Qatar, par exemple. Ça, c'est pour le contexte général. Mais c'était développé en Israël une idéologie comme quoi il y a également un problème économique dans la bande de Gaza, et que si on est plus coulant au niveau du travail, de l'argent qui peut arriver dans la bande de Gaza, eh bien finalement, les gens qui y habitent ne vont pas vouloir faire la guerre contre Israël, mais seront en paix avec nous, et finalement, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre tranquillement. Le problème, c'est qu'on oublie quelles sont les idéologies officielles du Hamas. Et quand on regarde la charte du Hamas, c'est-à-dire le texte fondateur du Hamas qui n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est marqué clairement qu'ils veulent détruire non seulement l'État d'Israël, mais le peuple juif. Ainsi donc, eh bien, ce matin du 7 octobre de Simchat Torah a montré aux yeux du monde le véritable visage du Hamas, qui ne veulent pas avoir une guerre, j'allais dire une guerre politique, d'État à État, de soldat à soldat, mais qui veulent tout simplement détruire non seulement l'État d'Israël, mais les Juifs de manière générale, puisqu'ils viendront s'attaquer aux femmes, aux enfants, aux civils, qui n'étaient absolument pas en train d'avoir des opérations militaires ou quoi que ce soit. Le 7 octobre, j'étais à Jérusalem. Je suis rabbin d'une communauté à Jérusalem. Et donc, nous avions vécu le 6 octobre au soir, comme j'imagine, un peu partout, une soirée de Simchat Torah extraordinaire. C'était magnifique. Il y avait plein de monde. Ça dansait, ça chantait avec le Sefer Torah. Évidemment, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer le lendemain matin. En France, je ne sais pas quand est-ce que vous avez pu être mis au courant. Est-ce que c'était le 7 au matin parce qu'il y a un gardien de sécurité ou parce qu'on ne veut pas savoir comment quelqu'un savait mais savait. Moi, je suis arrivé dans ma synagogue à 7h30. La tefila commençait, la prière commençait à 8h. Je suis arrivé à 7h30 pour organiser un petit peu les chaises qui avaient été un petit peu malmenées durant les danses de la veille. Et lorsque les premiers fidèles sont arrivés, la première sirène a retenti à Jérusalem. Ça ne veut pas dire que c'était le début de l'histoire. Nous ne savions pas que l'histoire avait déjà commencé depuis 1h30 et que le drame des villages à l'extérieur de la bande de Gaza, eh bien, avait déjà commencé. À 8h, je crois, 10, 15, la première sirène a retenti. On n'a pas compris. On ne savait pas ce qui allait se passer exactement. Une sirène, on sait, des fois il y a des sirènes, mais à Jérusalem, il n'y en avait pas eu depuis tellement longtemps. Donc, on s'est posé la question sur le moment, est-ce que c'est une sirène par erreur? Et il y a un voisin qui dit, non, mais vous ne vous rendez pas compte, il se passe un truc très grave, il y a des terroristes. Et une deuxième sirène retentit. Et là, on comprend que c'est quelque chose de plus sérieux. À ce moment-là, je dirige les fidèles de ma communauté vers l'endroit, l'abri le plus proche et le plus sûr. Et une fois que tout le monde est à l'abri, je décide de retourner dans ma maison. Pourquoi je retourne dans ma maison ? J'habite à 1 minute 30 de la synagogue parce que ma femme, comme tous les Shabbats matins, est partie au kotel et mes enfants dorment. Ils ont prévu d'arriver à la synagogue un peu plus tard. Et donc la première chose, c'était de rentrer à la maison pour voir si mes enfants ont été réveillés par la sonnerie, est-ce qu'ils sont en panique, qu'est-ce qui se passe ? Je vous rassure, mes enfants ne s'étaient pas réveillés. Je les ai donc réveillés, je leur ai dit « habillez-vous » et vous venez avec moi à la synagogue, je veux que vous soyez avec moi. D'un autre côté, ma grande fille n'a pas dormi à la maison, elle est partie dormir chez une copine. Et donc je n'ai aucun moyen de la prévenir, aucun moyen de savoir si elle est au courant, si elle est réveillée, si elle n'est pas réveillée. Et la tfila se passe. Nous avons 8 sirènes durant la prière. 8 sirènes où on doit à chaque fois arrêter la prière, aller se mettre à l'abri, revenir après, essayer de danser, mais on sait qu'il se passe quelque chose de très grave. Énormément de gens de la communauté sont des membres des services de sécurité et ont donc un téléphone de secours avec eux, même pendant le Shabbat. Et donc on sait ce qui se passe. On n'a pas tous les détails, mais on sait ce qui se passe. Et donc vous imaginez que notre Simchat Torah devient un jour très, très compliqué. On ne veut pas arrêter la tfila et les danses parce qu'on ne veut pas donner la victoire au terrorisme. D'un autre côté, on ne veut pas prendre trop de temps parce qu'il y a les sirènes et qu'on ne sait pas où les missiles peuvent tomber. Et donc finalement, on va très vite dans la prière et on rentre chacun dans sa maison. Et commence une journée où tout le monde sait sans savoir. Mais nous savons une chose. Les plus anciens de la communauté nous disent déjà que ça leur rappelle la guerre de Yom Kippour. Une autre guerre qui a commencé pendant les fêtes, qui a commencé pendant un jour où on ne peut pas prévenir qui que ce soit. Mais certains d'entre eux disent « Non, c'est pire qu'à Kippour, qu'à la guerre de Kippour. » Alors on ne sait pas. Et il faudra attendre le soir à la sortie de la fête pour comprendre l'ampleur du désastre. Les amis, effectivement, je voudrais vous montrer une toute petite image. Je vais vous montrer une toute petite image. Alors, voilà, je vais la retrouver dans une seconde. Et je voudrais vous la partager parce que lorsqu'on a été mis au courant de la réalité de ce qui s'était passé, de l'ampleur du désastre, eh bien, les gens ont commencé à se poser une question très simple. Est-ce que nous sommes en train de revivre les événements les plus sombres de l'histoire juive ? Sommes-nous en train de revenir à l'époque terrible de la Shoah? Parce que lorsque nous avons appris le chiffre terrible, absolument terrible, plus de 1300 juifs qui ont été tués durant le même jour, eh bien, ça n'était plus arrivé depuis la Shoah. Alors quoi? Sommes-nous en train de revenir à cette réalité-là? N'avions-nous pas créé l'État d'Israël pour dire plus jamais cela? Cette grande question qui est la nôtre, eh bien, m'a été répondue. Alors, je suis en train de chercher, mais j'avoue que je ne retrouve pas ce que j'avais envie de vous montrer. Je vais retrouver, c'est sûr. Toute petite seconde. Je vais finir par retrouver à un moment donné. Bon, c'est pas grave, je vais pas vous faire attendre. Je vais trouver une autre solution. Je vais même trouver la solution comme ça. Voilà. Hop là. Et... hop. Hop. Voilà. Iné. Ça vient dans une seconde. Parce que je pense que c'est vraiment important que je vous montre cela. Voilà. Ine. Yofi. Voilà. Est-ce que je peux partager quelque chose dans le Zoom ? Non. Est-ce que tu peux me permettre de partager?
Ouais.
Merci. Yofi. Donc voilà, comme je le disais, donc on était face à une réalité où, eh ben, on faisait face à des chiffres qu'on n'avait plus vus depuis la Shoah. Et donc, les questions de, mais attendez, est-ce que ça va revenir vraiment? Est-ce qu'on en est là? Eh bien, j'ai une amie qui m'a envoyé cette image que je trouve magnifique. C'est elle qui a fait l'illustration. Et je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. On voit ici deux personnages. L'un qui est habillé à la mode du ghetto de Varsovie. Et l'autre avec son t-shirt au drapeau d'Israël. Elle a donné mon nom au petit Israélien en souvenir du voyage qu'on avait fait ensemble. Et elle dit, Ethan, tu penses qu'on va y arriver cette fois? Et le jeune Israélien répond, oui Samuel, cette guerre, on va la gagner. Je pense que cette image, elle dit tout. Bien sûr, les drames qu'on a subis depuis Shabbat et dimanche sont des drames terribles, terribles, que nous n'avions pas vus depuis la Shoah. Mais la différence est énorme. À l'époque de la Shoah, lorsqu'on vient massacrer des Juifs, eh bien le lendemain, on continuera à massacrer des Juifs. Ce qui s'est passé pour nous à Simchat Torah est un drame, mais la différence c'est que nous, aujourd'hui, le peuple juif sait se défendre. Sait se défendre et sait prendre les devants pour que malgré le drame, nous puissions nous relever, nous reconstruire directement et surtout venger la mort de nos frères et de nos sœurs. Ça, c'était pour ce qui était des faits. Lorsque les terroristes rentrent dans le terrain, dans la terre d'Israël, passent la barrière de sécurité, vont attaquer également par la mer, et c'est plus de 1000 terroristes qui vont rentrer en même moment pour attaquer dans les villages, s'attaquant de manière complètement aléatoire, femmes, hommes, femmes et enfants, montrant bien que ce qui les intéresse n'est pas une guerre politique, mais bel et bien l'anéantissement du peuple juif. Et il faudra saluer le courage, l'abnégation, la vaillance, l'héroïsme de nos soldats et de nos civils qui se sont battus pour protéger le peuple juif. Tu as rappelé la mémoire d'un de ces soldats. On a énormément parlé de noms de différentes personnes. J'ai moi-même fait une vidéo en souvenir de Eli Valentin Guenassia qui est tombé dans le combat de Béhéri en protégeant et en sauvant le village de Béhéri. Les amis, voilà ce qui est des faits de Shabbat et de dimanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, depuis, on a été les témoins d'autres faits. Et les témoins d'autres faits, c'est les témoins de la résurrection de l'amour et de l'unité dans le peuple juif. Voilà ce qui s'est passé depuis. Une unité à toute épreuve. Il n'y avait plus de clivage, il n'y avait plus de différence politique, il n'y avait plus de « on pense pas comme ça, moi je suis religieux, je suis pas religieux ». L'unité du peuple juif qui est « ish echad belev echad » tel qu'on était au Mont Sinaï. Et c'est ce qu'on voit depuis ce moment-là. Des organisations d'entraide dans tout le pays, des individus qui décident d'aller s'enrôler d'eux-mêmes alors qu'on les a pas appelés, des gens qui sont à la retraite depuis trop longtemps et qui décident de venir quand même aider. Des juifs qui viennent du monde entier. Des Israéliens qui étaient en dehors d'Israël, qui prennent les premiers avions pour revenir aider le peuple juif. Il n'y a plus de clivage. Il y a un Echad qui est retrouvé. Et je pense que ça, c'est le plus grand message. Le plus grand message que nous pouvons avoir suite aux événements dramatiques qui nous ont frappés. Nous sommes sortis d'un an de discorde au sein du peuple juif, de sinatrinam. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est arrivé est à cause de ça. Je dis simplement que pendant un an, effectivement, le peuple juif s'est un petit peu disloqué. Une chose que nous avons retrouvée dans l'adversité, c'est notre amour, notre cohésion et notre unité. Je pense que l'enseignement le plus important de cette période, c'est tout d'abord de nous rattacher à ça, à cette unité du peuple juif qui est inébranlable. Que même les personnages qui, il y a encore un mois, disaient « Je ne suis plus membre du peuple juif, je ne suis plus ton frère, si jamais il y a un problème, tu ne me verras pas !» Eh bien, ont été les premiers à venir aider. Parce que nous n'avons pas d'autre peuple, nous n'avons pas d'autre terre, nous n'avons pas d'autre identité. Et nous avons retrouvé notre unité. Ça, c'est à mon avis la première chose qu'il faut se rappeler. La deuxième chose, et là je passe à l'étape d'après dans notre explication, nous ne nous battons pas simplement contre le Hamas, ce groupe terroriste. Nous nous battons également contre tous les groupes terroristes, pas seulement autour d'Israël, mais dans le monde entier, qui pensent pouvoir ébranler le monde par leurs agissements. Nous sommes en train de mener le combat de la lumière face aux ténèbres. Ce n'est pas moins que cela. Nous sommes le bien qui se bat contre le mal. C'est pas la peine de chercher d'autres définitions. Ce n'est pas la guerre à Gaza. Ce n'est pas une opération militaire à Gaza. C'est le combat du bien contre le mal. Et tous les pays qui ont décidé de soutenir Israël jusqu'à présent, y compris la France, sont les pays qui ont décidé de se calquer dans l'axe du bien. Puisque c'est le combat du bien contre le mal, eh bien j'aimerais que tout le monde en soit persuadé, on va gagner. Nous allons gagner cette guerre. Non seulement nous allons la gagner, mais nous allons la gagner le plus rapidement possible et avec le moins de pertes possible. Et nous allons avoir une victoire éclatante qui montrera au monde entier que le terrorisme n'est plus une possibilité d'action. Et nous allons montrer au monde entier également que nous sommes là pour amener la lumière, le bien, la vie. Les amis, c'est de cela dont on parle. Amener la vie à toute cette histoire. Ils ont essayé d'amener la mort, nous allons répondre par la vie. Et je pense que eh bien c'est ça l'objectif de tout ce que nous sommes en train de vivre. Dans la paracha de cette semaine que nous allons lire, si on prend un petit peu de hauteur, eh bien dans la paracha de cette semaine, nous pouvons voir que Akadosh Baruch Hu, suite à une terre qui s'est remplie de Hamas, Vatimale Haaretz Hamas, la terre s'est remplie de violence, de barbarie, c'est ça que veut dire le mot Hamas en hébreu. Eh bien, lorsque ce monde s'est rempli de cela, Kadosh Baruch Hu, il dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut rebattre les cartes. Et il y a un homme qui va être choisi, pour être celui qui va rebattre les cartes. Cet homme s'appelle Noach. Mais il serait peut-être important de se rappeler de pourquoi il s'appelle Noach. Il s'appelle Noach, on l'a vu dans la paracha de Bereshit de la semaine passée, qu'il s'appelle Noach parce que Zeyenachamenu mima'asenu umi'itzevon yadenu. Le but de Noach est de nous amener la consolation. Alors Noach est choisi pour mener la restauration de la vie après le déluge. Et on nous dit que Noach, il a 3 enfants. Et Shem, et Ham, et Yafet. Je sais qu'on a l'habitude de dire qu'ils s'appellent Shem, Ham et Yefet. Mais moi, j'aimerais comprendre ce que leur nom veut dire. Parce que vous savez que le nom, c'est un objectif. En hébreu, le nom veut dire objectif. Quand tu dis en français même, je fais ça au nom de, c'est dans l'objectif de. Eh bien, il y a le premier fils qui s'appelle Shem, c'est-à-dire objectif. Donc, il y a un but à la création, il y a un but à la résurrection. Ce but, c'est quoi ? Ham. Ham, ça veut dire quoi? Il est chaud. Il est chaud bouillant. Ça veut dire quoi? Il est chaud. Il est plein de vie. La chaleur, c'est la vie. Lorsqu'il n'y a plus du tout de chaleur, lorsqu'on atteint le zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, les atomes arrêtent de bouger, il n'y a plus de vie. Plus de mouvement, plus de vie. Ham, c'est la vie. Alors, lui, après, il va faire un peu n'importe quoi avec cette vie, mais ça, c'est un autre problème. L'objectif, c'est la vie. Et cet objectif de vie, on veut qu'il soit Yefet. Yefet ne veut pas dire Yafé. Ça ne veut pas dire beau. Yefet, Yafté, ça veut dire l'expansion. Le fait que ça grandisse, que ça se propage, la propagation. Cet objectif de vie doit être propagé dans le monde entier. Eh bien, c'est ce que nous allons lire cette semaine dans la paracha, car c'est la mission de cette guerre. Tout d'abord, détruire le mal à la racine et propager un message de paix et de vie. Voilà l'objectif, les amis. Voilà l'objectif de la guerre. Voilà l'objectif de la résurrection du peuple juif après ce qui nous est arrivé. Nous ne pouvons pas baisser la tête. Nous ne pouvons pas... Alors, évidemment, c'est le moment où quelqu'un vient sonner à ma porte. Bien sûr. Donc, ne bougez pas. Je reviens dans une seconde.
Shalom. ברוך השם, אני טיפה לא תהיה בעצם שלי. אבל בשמחה רבה, ממש בכיף, אתם צריכים עוד דברים, אל תעזיז. בבקשה, בשמחה רבה. כל הכל הצלחה. אמן רבי.
Excusez-moi. Voilà. C'était justement, on parle de ça, on n'a pas le droit de baisser la tête, on parle d'Ahavat Israël. C'est quoi, de quoi on parle? Il y a quelqu'un qui est venu pour prendre des affaires, pour distribuer à des gens, des familles du Sud. Bekitsour, c'est de ça qu'on parle. Alors, je disais, on n'a pas le droit de baisser la tête. On n'a pas le droit, voilà, on n'a pas le droit de tomber dans la dépression, de tomber dans une espèce de d'ambiance qui serait une ambiance pas cool, délétère, absolument pas. Nous devons absolument nous relever. Nous devons absolument essayer de nous remonter le moral les uns les autres. Et j'aimerais vous citer une personne qui a vécu des moments terribles et, comme j'ai montré dans la photo, des moments plus terribles que nous, puisque elle a vécu dans la Shoah. Je parle simplement de ma grand-mère. Et ma grand-mère disait dans son journal qu'elle avait tout le temps le sourire aux lèvres, là-bas, à Auschwitz. Et lorsque les gens lui demandaient « Mais comment c'est possible ?», elle répondait « On se doit de garder le sourire parce qu'on ne peut pas baisser la tête devant ces crapules de tortionnaires. Ce qui était vrai durant la Shoah, eh bien, Kal Vachomer, a fortiori, est vrai également à notre époque. Bevadai ou Bevadai est encore plus vrai. Parce que, comme on l'a dit, nous ne sommes pas du tout à l'époque de la Shoah. Nous sommes à une époque où, justement, nous sommes en train de rebondir, de nous reconstruire, de grandir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, en Israël, on sait plus ou moins ce qu'on peut faire. Mais en France, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en suis persuadé, vous vivez au rythme de ce qui se passe ici. Votre cœur bat à l'unisson avec ce que nous vivons. Mais j'imagine qu'il y a cette frustration de se dire « Mais je suis quand même très très loin, qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» La première chose, envoyez-nous énormément. Envoyez-nous énormément d'amour. Montrez-nous à quel point, on le sait, mais ça fait tellement du bien de voir toutes ces attentions, toutes ces messages, toutes ces prises de position, toutes ces soutiens à Israël, ça nous donne de la force, de sentir que on n'est pas seul. Alors on est très content de voir le président américain venir, et le président français, et le chancelier allemand, et les dirigeants du monde. Mais il n'y a rien qui remplace le soutien de son frère. Il n'y a rien qui remplace le soutien de sa famille. Et donc, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire, au-delà de tfilot, de mitzvot, de rajouter du bien dans vos communautés, eh bien, de se sentir soutenu par vous, c'est ce qui nous donne le plus de force. Et c'est ensemble, tous ensemble, toute la communauté d'Israël, je ne parle pas que les gens qui habitent en Israël, toute la communauté d'Israël, du peuple d'Israël, c'est ensemble que nous allons gagner cette guerre, c'est ensemble que nous allons non seulement la gagner, mais comme j'ai dit, passer une autre étape dans la Géoula que nous sommes en train de vivre. Nous avons eu en 1948 la création de l'État d'Israël, c'était fantastique. Et imaginez-vous, c'était impensable pour les gens en 47, en 46, en 45. Imaginez-vous ma grand-mère qui fait les marches de la mort. Tu lui dis dans 3 ans, il y a l'État d'Israël. Elle te dit, mais ça va pas la tête. C'était impensable pour ces gens-là. Et nous, on a vécu, on a grandi dans un monde où l'État d'Israël, c'est une évidence. Eh bien, le monde a changé en 48 pour le bien. Pareil, en 64, 65, 66. Ben, qu'est-ce que je te dis? Ça paraissait impossible de revenir à Jérusalem. Et en 1967, on est revenu à Jérusalem. Et pour nous qui sommes nés après, eh bien, ça nous paraît une évidence, le monde où le peuple juif peut aller au Kotel. Eh bien, je vous le dis, le monde d'après 2023 ne sera plus le même. Il sera encore plus grand, encore plus beau. La Géoula du peuple juif sera encore plus éclatante. Est-ce que ça veut dire que dans 4 mois, j'ai la bar mitzvah de mon fils? Est-ce que ça veut dire qu'on pourra la faire au Beth Amikdash? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Mais il est évident que, comme disait Nahum Ish Gamzu, on peut pas, on a du mal à dire Gamzu Letova. Mais en fait, quand on comprend, on sait que Gamzu Letova, ça veut absolument pas dire ça aussi c'est bien. Gamzu Letova, ça veut dire ça aussi c'est pour le bien. C'est-à-dire que c'est mal pour l'instant. C'est terrible. Mais cette terreur-là, on réussira à la transformer en force, on réussira à la transformer en vie, on réussira à la transformer en bien, et bah, c'est ce qui va nous permettre non seulement de gagner, mais de faire resplendir la lumière pour toute l'humanité. Voilà, je laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que vous vouliez. Si tu penses qu'il faut que je dise d'autres trucs, dis-moi ce qu'il faut dire. Et voilà. Je te rends la parole. S'il y a des questions, à vous de jouer.
Oui, Tan Sizan, merci beaucoup. Non, c'est, je pense que vous avez tout dit, vous avez tout expliqué. Si quelqu'un a des questions à poser, c'est maintenant.
Voilà, vous pouvez allumer les micros.
C'est ça. Moi, je vais juste vous poser une question, enfin une question qu'on m'a, enfin, on m'a posé cette question. J'ai pas vraiment su y répondre, enfin m'envoyer un message. Je vais vous relire la question. C'est une question qu'on entend beaucoup de la part des enfants, surtout. C'est pourquoi est-ce que les gens dans le monde n'aiment pas les juifs? Pourquoi est-ce qu'on ne nous aime pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine des juifs qui nous a suivis finalement pendant toute notre histoire? Et pourquoi en ce moment sur les réseaux sociaux, on voit surtout les gens, des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, qui sont sûrement jamais allés en Israël, enfin, contrairement à nous, pourquoi est-ce que tout le monde défend finalement les Arabes?
Alors, je vais répondre à la deuxième question avant de répondre à la première. D'abord, et je le dis très clairement et relayez ça à tous les enfants, faites très 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 attention aux réseaux sociaux. S'il y a bien un moment où il ne faut pas être trop sur les réseaux, c'est maintenant. Parce que d'abord, vous n'avez pas forcément le contrôle de ce qui va être posté sur les réseaux. Et l'algorithme de TikTok, pour ne parler que de ce réseau qui est le plus fréquenté en ce moment, quand tu vas mettre une vidéo un peu choquante et tout ça, machin, les gens ils sont happés par ça et donc ils vont regarder cette vidéo pendant 10 secondes. Et à ce moment-là, l'algorithme de TikTok, il va t'envoyer que des vidéos comme ça. C'est pas bon ni pour ta santé morale, ni pour ta connaissance des événements, parce que c'est toujours des fausses vidéos de propagande. Donc faites très attention aux réseaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les réseaux, ceux qui sont les plus virulents, c'est des gens qui ont une haine profonde, je pense, d'eux-mêmes d'abord, et de tout ce qui n'est pas comme eux. Et donc, ils déversent tout le temps leur haine pour tout et n'importe quoi. Hier, c'était pour un influenceur qui a influencé sur une valise qui marche pas, et aujourd'hui, c'est pour détruire Israël. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des gens qui ne connaissent absolument rien, mais qui se permettent de parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont des personnes qui viennent du monde arabo-musulman, qu'ils habitent en France ou pas d'ailleurs, et qui vont se revendiquer du combat qu'on a évoqué au début de notre intervention, du combat de l'islam. Et c'est pour ça qu'on va voir des gens sur les réseaux, en France particulièrement, qui soit ne vont pas condamner les actes du Hamas, ou alors qui vont les condamner, mais juste après vont s'empresser de dire « Bon, c'est pas bien qu'ils aient tué hommes, femmes et enfants, mais quand même, le vrai méchant dans l'histoire, c'est Israël. » Alors, au-delà de l'absurdité historique, puisque comme je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes plus à Gaza depuis 2005, mais au-delà de cela, eh bien, il faut bien comprendre que lorsqu'on est face à des gens qui prônent l'idéologie terroriste, eh bien, tu ne peux pas avoir un dialogue. Tu vas simplement montrer, toi, si tu as envie, les vrais faits. Par exemple, ce qui a occupé la toile dans la journée qui vient de s'écouler, Israël bombarde l'hôpital de Gaza. Voilà, Israël est un meurtrier terrible de pauvres femmes et enfants de l'hôpital de Gaza. Et tous les réseaux ont repris ça. Aujourd'hui, on sait, parce que Al Jazeera elle-même l'a annoncé, la chaîne d'information arabe, que c'est un tir manqué du Hamas, qui d'ailleurs n'a pas fait 500 morts, ni 200 morts, mais simplement est atterri dans le parking de l'hôpital, et il y a 20 voitures qui ont été brûlées, il n'y a pas eu de victimes humaines. Bon, mais ça n'a pas empêché pendant 12 heures le monde entier de dire « Israël, assassin des hôpitaux !» machin. Donc toi, tu te dois de rappeler les faits, si tu peux, poster des vidéos officielles, poster des photos, poster des choses. Ne pas rentrer dans le débat, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était par rapport au réseau. On remarquera d'ailleurs la prise de position terrible, mais bon, je ne m'attendais pas à autre chose, d'un des joueurs de football français les plus talentueux peut-être, connus, Karim Benzema, qui lui a été très clair, il a pas du tout dit le Hamas c'est pas bien, mais Israël c'est pas bien. Non, il a dit c'est pas bien Israël. Point. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être faire également, et ça peut-être que vous les enfants vous n'avez pas la possibilité, mais vous les adultes et les jeunes vous avez plus de possibilités. Je pense qu'il faut absolument ne pas laisser passer les personnalités françaises juives et non juives, mais surtout juives, ne pas laisser passer leur silence. Quelques personnalités se sont prononcées, ont dit des choses, c'est très bien, mais c'est largement pas suffisant. Largement pas suffisant, et qu'on vienne pas nous dire que c'est parce qu'ils pensent à leur petite carrière. Il y a un moment donné où le cœur, il y a un moment donné où les tripes, il y a un moment donné où la neshama doit s'exprimer. Alors, par rapport à ta première question, pourquoi on nous aime pas? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait, c'était à l'époque de l'affaire de Sarah Halimi. Il y a eu, dans une émission en France qui s'appelait On n'est pas couché, on avait invité Michel Boujna. Pas pour ça, on l'avait invité parce qu'il présentait un spectacle ou un festival, je sais plus quoi, et on lui a posé la question sur l'affaire de Sarah Halimi. Et Michel Boujna a dit, mais je comprends pas, moi je suis invité pour parler d'un festival et vous me ramenez à l'antisémitisme. Mais enfin, l'antisémitisme, c'est pas la faute des juifs, c'est la faute des antisémites. Et là-bas, il y avait un chroniqueur qui s'appelle Yann Wax qui répondait, parce que Michel Boujna disait, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour qu'il nous en veuille tellement? Et Yann Wax, qui est non-juif, répondait, ben, vous avez donné la Torah au monde. Et la Torah est un cadeau extraordinaire, mais ça nous impose une valeur morale, une valeur de lien avec son prochain, une valeur de lien avec Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'on nous fait un cadeau qui est extraordinaire, mais qu'on n'est peut-être pas prêt à recevoir, ben, ça nous fait du mal. Mais ça, c'est une première chose. Et donc, peut-être que les gens nous en veulent à cause de ça. Mais moi, j'aimerais me référer à celui qui en voulait beaucoup au peuple juif et qui a fait beaucoup de mal au peuple juif. Je veux parler évidemment de Adolf Hitler. Eh bien, il y a un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit », qui a été écrit par un ancien général de la Wehrmacht qui s'appelle Rauchtig, qui est parti avant le début de la guerre, qui a compris que son patron partait en cacahuète, et il est parti se réfugier aux États-Unis. Et là-bas, il a écrit le livre « Hitler m'a dit », des conversations qu'il a eues avec lui. Et un jour, il lui a posé la question « Mais pourquoi les Juifs ?» Et Hitler a répondu « Ben parce que les Juifs représentent la morale de l'humanité, et la morale a affaibli l'Europe et l'humanité. Nous allons donc détruire la morale et nous devons détruire Israël. » Les amis, nous sommes très souvent haïs parce que peut-être... Alors je veux d'abord... Non, d'abord je vais dire autrement. D'abord, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison légitime à la haine d'Israël. Zéro. Zéro raison légitime. La personne qui décide de faire le mal et de haïr, c'est lui le rachat, c'est lui le mauvais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, peut-être que les gens ont du mal avec un peuple qui a pour vocation et pour rôle d'amener une lumière de bien et de morale dans l'humanité. C'est pas pour ça qu'on doit arrêter. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dévoie tellement ? Eh bien, peut-être parce qu'on montre quelque chose. Vous savez, il y avait un travail de thèse qui avait été fait à l'université de Haïfa, c'était dans les années 2000, où il y a une arabe israélienne qui avait rendu comme thèse de devoir en psychologie que les soldats d'Israël sont racistes. Tiens donc, quel était son argumentaire ? Eh bien, elle a passé en revue toutes les armées dans le monde qui ont été devant une population civile pendant plusieurs mois, voire années. Elle a vu que dans tous les pays où il y avait une armée qui était devant une population civile pendant des mois, voire des années, il y avait toujours des cas où les soldats ont violenté les femmes de la population civile. Et elle dit, or Israël, depuis plus de 60 ans, son armée est devant la population civile arabe, et il n'y a pas de cas de viol, de violence faite aux femmes par l'armée israélienne. C'est la preuve que les soldats israéliens sont racistes. Ou alors, c'est la preuve que l'armée d'Israël est la plus morale de la terre. C'est la preuve que lorsque nous nous apprêtons à attaquer la bande de Gaza pour détruire le terrorisme, eh bien nous prévenons d'abord les civils d'évacuer les lieux. C'est pour ça que on va tout faire pour éviter les dommages collatéraux, mais on va tout faire aussi pour détruire le terrorisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Il y a une question dans la discussion.
Oui.
Pourquoi enfin, qu'est-ce qu'ils ont contre nous ? Du coup, ça rejoint.
Bon, ça rejoint un petit peu. Maintenant, encore une fois, je pense que la première raison, c'est il n'y a pas de raison. On va pas trouver des raisons au mal. Pourquoi les gens veulent faire le mal ? C'est d'abord parce qu'ils ont choisi de faire le mal. Et il faut se battre contre le mal. C'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont contre nous ? Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ce que représente la Torah. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ce que représente la résurrection du peuple juif après 2000 ans d'exil. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ce que représente l'entraide du peuple juif qui existe nulle part ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas la moralité, comme on a dit, on vient de dire, du peuple d'Israël. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le tout combiné ensemble. Mala asot. Moi, quand je vois des insultes antisémites, en général, je me dis que je suis diamétralement, opposément bien de celui qui m'insulte.
J'ai une question.
Vas-y, comment tu t'appelles ?
Rebecca,
vas-y.
Et comment ils font ceux qui habitent à côté de là où la guerre il se passe ? Parce que comment ils font pour vivre ? Ils entendent des balles, des coups de feu.
Très très bonne question. C'est une super question, Rebecca. Moi, j'ai commencé en te racontant comment est-ce que moi j'ai vécu le matin de Simchat Torah, mais t'as raison, moi je suis un peu loin, moi je suis à Jérusalem. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a une sirène, moi j'ai 1 minute et demie, 90 secondes, pour aller me mettre à l'abri. C'est beaucoup, 90 secondes. Donc je peux aller, même courir et aller ailleurs. Par exemple, dans ma synagogue, il n'y a pas un abri dans la synagogue, mais il y a un abri de l'autre côté de la rue, Et on a calculé, on a fait le test, ça met 45 secondes pour arriver dans l'abri depuis la synagogue. Donc, c'est facile. Mais effectivement, les gens qui habitent à Sderot, à Netivot, c'est terrible. Ils ont des sirènes, ils n'ont que 15 secondes pour aller se mettre à l'abri. Alors, d'abord, il faut que tu saches que dans la majorité des maisons qui sont aux abords de la bande de Gaza et de manière générale en Israël, il y a des abris. Ça veut dire quoi des abris ? Ce sont des pièces dans la maison qui ont été renforcées avec des murs en acier et en béton armé. Et donc, ce sont des murs qui résistent à des attaques de missiles. Donc, lorsqu'il y a des sirènes, eh bien, les gens rentrent dans ces chambres-là qui sont déjà aménagées. Il y a des lits, il y a des jeux, il y a de la nourriture. Et donc, ils peuvent rester pendant toute la durée de l'alerte dans cette pièce-là. Maintenant, quand tu me dis il y a des gens qui entendent des balles et tout ça, eh bien, ce qui s'est passé quand les gens étaient attaqués par des terroristes au sol et pas seulement par des missiles, eh bien, le mieux, c'était de s'enfermer justement dans ces pièces qui sont sécurisées et de prier pour l'arrivée des soldats, l'arrivée de la police qui puisse les aider. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être sauvé, mais tous les autres qui ont été sauvés, ce sont les gens qui ont respecté les consignes de sécurité et ont attendu les secours. Maintenant, tu as raison. Dans la vie au quotidien, c'est très, très dur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les enfants de ton âge ? Je ne sais pas quel âge tu as, mais pour les enfants de ton âge, tu as quel âge, toi ?
8 ans.
Bah, par exemple, ma fille, elle a 9 ans. J'ai une fille de 7 et une fille de 9. Donc, toi, tu es au milieu, tu es le sandwich. Eh ben, ils n'ont pas l'école. Depuis le début de la guerre, l'école, elle n'a pas repris parce que on craint des sirènes, donc l'école veut pas prendre la responsabilité. Alors je dis qu'elle a pas repris, c'est pas vrai, elle a repris ce matin. Elle a repris ce matin, mais pas complètement. Et ça, c'est parce que nous, encore une fois, on habite à Jérusalem. Pour les gens qui habitent proche, ben évidemment que l'école elle reprend pas, que les activités elles reprennent pas, que le Bnei Akiva il reprend pas. Mais ce qui se passe, c'est que pour l'instant, une grande partie de ces habitants là, eh bien, ils ont reçu la possibilité financière et tout ça de partir de cette région-là le temps de la guerre, d'aller se mettre un petit peu à l'abri dans des endroits plus loin pour ne pas être sous les sirènes et pouvoir un petit peu se reposer.
J'ai une autre question.
Vas-y.
Oui, les soldats qui attaquent, ils entrent dans les maisons ou ils s'attaquent aux soldats qui les font ?
Ben, tu vois, c'est ça toute la différence entre des terroristes et des soldats. Les soldats, ils s'attaquent à des soldats. Il y a des armées dans le monde qui s'attaquent mutuellement. C'est malheureux, c'est dommage, il y a des guerres dans le monde entre soldats. Mais les terroristes, eux, ils s'attaquent pas que aux soldats. Ils s'attaquent à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants. Et c'est pour ça que le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Parce qu'ils n'ont pas attaqué que des soldats en uniforme. Ils ont attaqué et pris en otage des gens qui n'avaient rien demandé, qui est des fois même des enfants. Comme toi, de ton âge. Donc ça, ce sont des terroristes. Et c'est pour ça qu'il faut détruire ce terrorisme.
D'accord.
Il y a une question ici. Alors, bonsoir Rav. Comment réagir face à certains proches juifs qui se montrent laxistes face à ce conflit et prennent la paix en condamnant nos ripostes et en parlant de guerre Hamas-Netanyahou au lieu de Hamas-Humanité sans évoquer l'antisémitisme ? Eh bien, il faut répondre à ces gens-là que c'est une honte. Que c'est une honte, il n'y a pas d'autre mot. Que ces gens-là sont... D'abord, ils sont dans l'erreur et dans le mensonge. Mais en plus de ça, c'est malhonnête et c'est une honte. Que ces gens-là regardent en face les familles des endeuillés, les familles de ceux qui ont des gens qui sont partis et pris en otage, et qu'ils leur disent, droit dans les yeux, « Non, mais c'est pas une guerre humanité Hamas, c'est une guerre Netanyahou. » C'est une honte que ces gens-là soient... Enfin, vraiment, ils méritent tout le mal qu'on peut souhaiter à quelqu'un qu'on n'a pas envie de lui souhaiter le mal. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi, si on leur a donné une partie d'Israël, ils s'attaquent encore à nous ? Ah, bah très simplement, parce qu'ils n'ont pas envie d'une partie d'Israël. Ils veulent tout Israël. Ils ne veulent pas que toi, tu sois là. C'est-à-dire que le Hamas l'a clairement expliqué dans sa charte, dans son document de base. Il doit y avoir un État arabe de la mer jusqu'au Jourdain. Il ne doit pas y avoir d'État d'Israël du tout.
D'accord.
Peut-on leur dire, quitte à créer un conflit entre juifs, pendant cette période, sachant qu'ils sont sur les réseaux? Alors là, tu poses une autre question. Est-ce qu'il faut répondre à ces juifs-là sur les réseaux? Comme j'ai dit, à mon avis, débattre sur les réseaux sociaux, c'est pas, ça, ça sert à rien. Ça marche pas. Voilà. Alors, en privé, oui. En privé, oui. Et si tu vois qu'ils sont butés et qu'ils sont bloqués sur leur position, alors bon, bah, tant pis. Mais effectivement, en privé, on peut faire changer les mentalités en privé. Ça sera conflictuel même en privé. Ben, c'est bon. Je pense qu'il y a quand même, de manière générale, un vrai consensus, pas que chez les juifs, hein, mais dans le monde entier, que le Hamas, c'est pas juste un combat politique. S'il y a encore des gens qui le pensent, eh bien, encore une fois, je les invite à parler avec toutes les personnes qui ont switché, qui ont vrillé en Israël le jour de Simchat Torah. Toutes les personnes qui faisaient partie de la gauche hardcore israélienne qui ont complètement vrillé et qui sont partis défendre le pays. Comme par exemple l'ancien député, le membre du parti Meretz, du parti d'extrême gauche, qui s'appelle Yair Golan, ancien général de l'armée, qui était terriblement contre Israël, sa présence dans les territoires qu'on appelle les territoires occupés, qui disait qu'à Gaza on se comporte pas bien, nanana, et qui disait qu'il fallait rendre tout, eh bien il était le premier, je sais pas quel âge il a 70 ans, à remettre son uniforme et à partir protéger le peuple juif au péril de sa vie et à être le premier à dire « Edmala Asot, il va falloir revenir à Gaza ». Parce que tout le monde comprend maintenant que tu peux pas faire confiance à des terroristes. Mais alors pourquoi ils ont accepté cette partie d'Israël? Alors ils n'ont pas accepté en 2005, on a demandé l'avis à personne. C'était Ariel Sharon qui était le premier ministre de l'État d'Israël et il a pris une décision tout seul comme un grand, à mon avis une décision erronée, mais bon ça c'est pas moi qui juge l'histoire, de partir complètement de la bande de Gaza et il a demandé à personne. Donc c'est pas que ils ont accepté ou pas accepté. De fait, ça fait maintenant près de 18 ans que il y a plus un seul juif dans la bande de Gaza.
J'ai une question.
Oui.
Est-ce que là, pour l'instant, en ce moment, est-ce qu'on a une visibilité sur la suite? Du conflit. Est-ce qu'on a une visibilité sur la fin?
Ouh là là.
Potentiel, comment est-ce que ça va pouvoir se terminer et quelles sont finalement les issues et les possibilités pour que finalement la guerre cesse?
Bon, est-ce qu'on a une visibilité? Je serais bien mal avisé de faire le prophète à 2,50 francs, à 2 euros. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas comment ça va finir. Tu me demandes quelles sont les possibilités? Bon, quand on rentre dans le champ des possibles, il y a plein de choses qui sont possibles. Il est possible que l'État d'Israël décide d'arrêter la guerre, de faire un cessez-le-feu avec le Hamas, et de faire un échange de prisonniers. C'est possible, ça a déjà été fait dans l'histoire. Moi, personnellement, je pense que ce serait une terrible erreur et que ça serait perçu comme une grande victoire pour le Hamas. Il est possible aussi qu'on détruise tout le Hamas jusqu'au dernier de leurs terroristes. Et une fois qu'on a terminé de détruire le Hamas, eh bien, on rentre chez nous, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Et que après, y a un autre groupe terroriste qui prend le contrôle de la bande de Gaza. C'est aussi possible. C'est aussi possible qu'on détruise le Hamas et que après, on décide de garder les forces armées à l'intérieur de la bande de Gaza, qu'on redevient les patrons de la bande de Gaza sous commandement militaire. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouveaux groupes terroristes qui prennent le lead, c'est aussi possible. C'est aussi possible qu'on détruise une grande partie de la bande de Gaza avec les terroristes avec, et qu'après on reconstruise des villages juifs dans la bande de Gaza, qu'on refasse le Gouche Katif x2, x10, x20, et qu'il y ait des villes juives qui naissent, des nouveaux bords de plage, qui entre parenthèses étaient magnifiques il y a 18 ans, j'étais là-bas, et que Israël grandisse son territoire, et que une grande partie, ça, si c'est possible, et c'est aussi possible que parmi les 2 millions de personnes qui habitent dans la bande de Gaza, une grande partie partent en Égypte, de là partent en Europe et ailleurs, Je vous rappelle que dans les 6 derniers mois, c'est 400 000 Arabes de Gaza qui sont partis de Gaza. On n'en parle pas, mais qui sont partis parce qu'ils veulent partir. Donc ça aussi, c'est possible. Bekitsour, si tu me demandes à moi, c'est possible aussi que la guerre à Gaza prenne une autre tournure avec le Hezbollah au Liban qui commence à s'y mettre aussi. Et c'est possible que finalement l'Iran dévoile que c'est bel et bien elle qui est derrière tout ça et que donc ça devienne une guerre beaucoup plus grande. C'est possible que les porte-avions américains qui sont arrivés en Israël ne soient pas là juste pour dissuasion mais pour quelque chose de plus grand. Et c'est possible que à la fin de cette histoire, eh bien Machiar Tzidkenu se dévoile. C'est aussi possible tout ça. Une chose est sûre, c'est que je ne sais pas quel jour, à quelle heure la guerre se terminera, mais on va gagner.
J'ai une question.
Ah, il y en a deux. Choisissez la, qui parle en premier.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est qui parle?
Jonas Galfond.
Jonas, vas-y.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'État d'Israël? Parce que nous, on n'est pas ici, nous. On est... On est en France.
Tu as, c'est une super question. J'adore ta question. D'abord, j'aime beaucoup ta question parce que j'adore comment tu l'as formulée. Tu as dit « on n'est pas ici ». Ça veut dire que dans ta tête et dans ton cœur, ici, c'est Israël. C'est génial. D'abord, c'est fantastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Je t'ai dit tout à l'heure. La première chose que nous, on a besoin, c'est que on sache que toi, Jonas, t'es avec nous. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si toi, tu as des réseaux sociaux, eh ben, t'envoies des petits drapeaux d'Israël, t'envoies des petits cœurs, t'es avec nous, on sait que t'es avec nous. Déjà, ça nous fait énormément de bien. Deuxième chose que tu peux faire, tu peux aller voir le rabbin de ta communauté et lui dire, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez nous faire des cours pour nous, les enfants, pour étudier la Torah, pour aider les soldats à gagner la guerre? Ensuite, tu peux aller voir le président de ta communauté. Toi, Jonas, tu dis, monsieur le président, est-ce qu'on pourrait organiser de faire des colis pour les soldats ou pour les familles qui habitent dans le sud d'Israël? Voilà ce que toi, tu peux faire. Mais le plus important, c'est qu'on sache que Jonas, il est avec nous.
D'accord.
Il y avait une deuxième question, il y a quelqu'un qui voulait parler aussi.
Oui, c'était moi.
Et c'est qui toi?
C'est Aurel.
Aurel, vas-y.
En fait, est-ce que... j'avais pas compris quand vous avez dit que... il y avait une femme arabe qui avait dit que les...
Ah, je t'explique. Parce que elle pensait que normalement, les soldats d'une armée, eh ben, ils font des violences aux femmes civiles lorsque l'armée, elle est présente. Mais les soldats israéliens, ils ont jamais fait ça aux femmes arabes. Et donc, elle dit, oh, bah, ça veut dire que les Israéliens, ils sont racistes. C'est pour ça qu'ils veulent pas s'attaquer aux Arabes. Genre, ils disent, les Arabes, c'est irsa, c'est dégoûtant. Non, c'est pas pour ça. C'est juste parce que nous, on est des gens bien. Et que nous, quand il y a une population civile, eh ben, on lui fait rien.
J'ai une deuxième question.
Oui.
Est-ce que là, tu es en Israël?
Oui, je suis à Jérusalem.
Ah bon?
Oui.
Ok.
Voilà. Tu veux mon adresse?
Non.
D'accord. Est-ce qu'on a une autre question?
Moi, j'ai une question.
Vas-y, Nathan.
Par exemple, pourquoi en fait les gens depuis Avraham jusqu'à maintenant ils veulent juste nous éliminer, nous tuer?
Bah, j'ai essayé de répondre déjà à cette question là, mais je vais donner un autre élément de réponse que j'ai pas encore donné. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham et le peuple juif pour remplir un rôle, et ce rôle là, le monde entier doit en profiter. Ce rôle là, il n'est pas que pour nous. Et donc, peut-être que le monde entier attend qu'on remplisse notre rôle. Peut-être que le monde entier attend avec impatience que le peuple juif ils remplissent son rôle. Tu sais, par exemple, bon, ça, tu vas me dire que peut-être que t'es pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que lorsque nos dirigeants, ils vont parler, par exemple, à l'ONU, ou alors ils font une conférence de presse avec un autre chef d'État, mais je pense que c'est très important qu'ils rappellent à tout le monde que le fait qu'on soit en Israël, c'est pas seulement parce que historiquement on est là, c'est parce que c'est marqué dans la Torah. Je pense qu'il faut pas avoir honte de qui on est. Et moins tu auras honte de qui tu es, et plus les gens autour de toi, ils te respecteront. Maintenant, encore une fois, c'est absolument pas une explication de pourquoi ils nous font tellement de mal. Ils nous font tellement de mal parce qu'il y a des gens qui sont mauvais. Et donc, comme je l'ai dit, cette guerre, c'est se battre contre le mal. Point. Je ne sais pas si c'est une réponse qui te suffit.
Oui, c'est bon, merci beaucoup.
Il y a une question ici. Quels sont les arguments historiques des Palestiniens ? On connaît souvent les arguments de la légitimité de la terre d'Israël, mais on connaît un peu moins les arguments des Palestiniens pro-palo qu'on a aussi besoin de connaître pour mieux nous défendre. Enfin, les arguments historiques qu'ils donnent, à part le « ils sont pauvres et on les a foutus dehors ». Bah non, je peux pas t'aider là, parce que tu viens de donner l'argument principal. Ils te disent « ils sont pauvres et on leur a volé la terre ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a pas d'argument. Il y a quelques années, je suis venu pour animer un Shabbat de jeunes étudiants en France. Et il y avait le point de rendez-vous pour que le bus il nous amène là où il y avait le Shabbat. C'était à Paris, porte de Clignancourt. Maintenant, moi, je ne viens pas de Paris. Même quand j'habitais en France, je n'habitais pas à Paris. Donc, je ne connais pas très bien. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris le RER, machin. Et puis, je suis arrivé devant la carte du métro. J'ai vu ligne 4, porte de Clignancourt, la ligne violette. Bon, ben, je suis arrivé. Je suis arrivé porte de Clignancourt. Et j'ai compris que la population n'était pas vraiment venue de Norvège. Et lorsque je suis arrivé là-bas, il y avait une autre personne qui venait d'Israël, qui était comme moi, en kippa, tzitzit, mais lui, il avait des sandales avec des chaussures. Ça montre un niveau encore plus important. Et on est rentré dans un café, parce que vu que le bus, il arrivait que dans une vingtaine de minutes, on est rentré dans un café. Il a commandé un café, j'ai commandé un Orangina. Seulement, faut que tu t'imagines, on est rentré dans le café. Et je sais pas si tu as déjà vu des films de western, quand il y a le méchant qui rentre dans le saloon, ben, il y a un silence comme ça de mort. On est rentré dans le café avec notre kipote, notre tzitzit, et lui, ses sandales avec ses chaussettes. Il y a eu un silence dans le café. Toutes les têtes se sont retournées vers nous. Et on a commandé au bar un café, un Orangina. Et le patron du bar, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on a dit, ben, on veut un café, un Orangina. Et alors, il nous a dit, ok, je vous sers, mais vaut peut-être mieux que vous alliez boire le café dehors. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont regardés de manière un petit peu insistante. Et l'autre personne qui était avec moi, elle parle un petit peu arabe. Alors, elle s'est approchée vers deux des personnages qui s'approchaient de nous, en leur disant en arabe, comment ça va, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Et les mecs, ils ont répondu en français, oh, c'est pas bien ce que vous faites aux Palestiniens. Ah non, il nous connaît pas, il sait pas qu'on vient d'Israël ou quoi que ce soit. Mais il faut que tu comprennes que pour lui, cette personne-là, un juif, c'est un Israélien. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ok, tu sais quoi, je vois que la cause palestinienne est très chère à ton cœur. J'ai sorti de mon sac une carte. J'avais une carte du monde, parce que j'avais prévu de l'utiliser pour une de mes activités pendant le Shabbat. J'ai sorti une carte. Je lui ai dit, mais moi, je connais pas très bien. Tu pourrais me montrer où c'est la Palestine qui est tellement chère à ton cœur? Et il m'a montré un truc en Afrique à côté de l'Ouganda. Donc, soit il connaissait très très bien l'histoire du congressionniste et de 1903 et la proposition de l'Ouganda à Herzl, mais je suis pas sûr. Je pense tout simplement qu'il savait absolument pas ce que c'était la Palestine et où c'était. Ça tombe bien parce que c'est un pays qui n'existe pas. Mais tout ça pour te dire qu'il n'y a pas d'argument. Les arguments, c'est les Israéliens tuent des pauvres enfants palestiniens. C'est malheureusement pour eux totalement faux. Donc il n'y a pas vraiment de comment on peut débouter les arguments pro-palestiniens. Il y a un homme qui s'appelle Yosef Haddad, qui est arabe, israélien, et qui est un des plus grands défenseurs d'Israël sur les réseaux sociaux. Il vient dans les campus universitaires où il y a le BDS, où il y a les organisations Free Palestine, tout ce que tu veux. Et il parle en arabe, il dit « je suis un arabe, machin, vas-y, explique-moi, c'est quoi le problème en Israël? Il y a l'apartheid en Israël, c'est quoi le problème ?» Et les mecs, ils disent « ouais, il y a un discours qui est donné, qui est genre dit, genre c'est par cœur, c'est du par cœur. » Ils viennent te dire « ouais, mais tu te rends pas compte, c'est terrible, machin. » Et lui, il te dit « mais moi, je suis arabe, palestinien, j'habite en Israël. Et pourtant, je peux me déplacer où je veux, j'ai droit aux soins, j'ai le droit de vote, je peux faire les études que je veux. Il y a des juges à la Cour suprême israélienne qui sont arabes. Le juge qui a envoyé un président de l'État d'Israël juif en prison, c'était un juge arabe qui siégeait à la Cour suprême. Donc voilà, il n'y a pas d'argument. Le mieux, c'est que toi, tu donnes les arguments pro-israéliens. D'autres questions ? Oui, non, non, oui.
Ça m'a l'air d'être bon.
Est-ce que Robert, tu veux conclure ? Non, il est muté. Ah, voilà.
Merci beaucoup. Merci, Rabetan. J'ai été passionné par ton exposé, tes réponses aux questions. Je pense que les questions sont légitimes.
Bien sûr.
Les réponses sont très bonnes. Voilà, je crois qu'on n'a qu'une réponse aujourd'hui dans ce monde, c'est d'apporter de l'amour, d'apporter à Batrinum.
Amen.
Parce que on sait très bien que c'est quand on a de la haine entre nous, quand on a des bagarres entre nous dans le peuple d'Israël, pour quelque raison que ce soit, que nos ennemis en profitent, et ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. En revanche, notre force, elle est dans notre relation les uns avec les autres, et c'est pas entre les États, entre les grands du monde, entre etc. C'est chacun avec ses amis, chacun dans sa classe, chacun dans sa famille, chacun dans sa communauté. Si on sait se comporter l'un avec l'autre, si on fait attention à l'autre, si on fait attention aux besoins de l'autre, eh bien, de toute manière, on gagnera. Mais on peut gagner beaucoup plus. On a beaucoup plus en jeu. Et je crois que, avec l'aide de Dieu, cette guerre se terminera non seulement avec la victoire, mais avec la venue du Mashiach.
Amen. Et pour répondre à ma tante qui pose la question pourquoi je suis pas en Pologne, parce que je devais accompagner la communauté israélite de Metz dans un voyage de la mémoire en Lituanie, en Pologne, depuis dimanche jusqu'à demain, parce que, un, il n'y avait pas de vol, et deux, parce que c'était compliqué de laisser ma famille à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'étais pas en Pologne, mais il n'y a toujours pas de vol. Donc voilà. Ben voilà, Chazak ou Baruch, ben mettre Kol Hakavod le Bnei Akiva. Je suis toujours à votre disposition. Vous avez également à votre disposition en France un Shaliach qui est israélien et qui est au top. Vous pouvez aussi lui poser plein de questions à lui, Adin Cohen. Et donc, avec plaisir, il vous aidera. Mais moi, je suis toujours à votre disposition. Si vous voulez qu'on se refasse des petites ambiances comme ça, même quand c'est pas la guerre, eh ben, on pourra. Avec plaisir. Et voilà. Et en espérant, comme a dit Jonas, vous voir tous ici bientôt. Amen, ve amen. Et à très, très vite.
Ethan, qui est le nouveau marécaise de Boulogne pour cette initiative.
Ah, super, Ethan. Kol Hakavod.
Très positif.
Kol Hakavod.
Surtout merci à Eli Blum qui a réussi à.
Bon, on se dit tous merci. Ah. Bon, alors merci tout le monde. Allez.
Merci beaucoup.
Yofi. Chazak ou Baruch.
Chazak. Ravetan, merci.